Rome, ville qui comptait pratiquement 1 million d'habitants, n'en compte plus vers 540 qu'environ 300 000. Rome, en l'espace de 120 ans, a subi 5 invasions majeures. Il faut imaginer que les choses commencent l'hiver 405, où des peuplades germaniques, poussées jusqu'au Rhin par un danger majeur, les Huns qui mettront d'ailleurs 40 ans de plus à atteindre le Rhin, les Huns vont donc tellement paniquer ces malheureuses peuplades germaniques, Visigoths, Ostrogoths et autres Goths, aurait dit Astérix. Je disais donc qu'en 405, poussés par les Huns, les peuples germaniques arrivent au bord du Rhin et, malchance, l'hiver 405 est épouvantablement froid. Le Rhin est totalement gelé et 1,5 million de barbares, vieillards, femmes et enfants compris, vont traverser le fleuve et déferler sur l'Empire d'Occident. Je passe sur les innombrables massacres qui vont marquer leur déferlement à travers la Germanie, la Belgique, la Gaule, l'Espagne. Mais ils vont finir par arriver en Italie. Et en 410, événement sans précédent dans l'histoire, totalement improbable, auquel les Romains ne pouvaient même pas croire, les Visigoths d'Alaric vont s'emparer de Rome. Alors, la chute de Rome, en soi, par rapport à certaines guerres modernes, c'est une petite plaisanterie. Alaric a assiégé la ville pendant un an quand même, les Romains sont bien défendus. Et au bout d'un an, à bout de force, les réserves de nourriture épuisées, ils vont négocier avec Alaric, qui va leur dire: « Vous m'avez quand même tenu tête pendant un an, ça se paye. Vous allez me laisser piller la ville pendant 3 jours. » À 3 jours, c'est de la modération, hein. Et dans un grand accès de bonté, Alaric va même ajouter: « Je ne ferai pas de mal aux gens qui se réfugieront pendant ce temps-là dans les églises. » L'ennui, c'est que bon, y a pas de radio à l'époque, hein, beaucoup de gens ne sont pas prévenus, donc ils n'iront pas se réfugier dans les églises. Et ça finira mal pour eux, c'est comme ça que mourra Sainte Marcelle, par exemple. Et il y a la propre sœur de l'empereur Honorius, la jeune princesse Galla Placidia, qui a tout juste 16 ans. Et on va assister à ce spectacle absolument incroyable de milliers de Romains enchaînés, entraînés par les barbares hors de la ville, et parmi eux, la propre sœur de l'empereur. Et bon, Rome va se remettre très vite. 3 ans après le sac de Rome, il ne reste absolument aucune trace des déprédations des Visigoths. On a reconstruit, on a même redoré les toitures, parce qu'en bon barbare, qu'est-ce qui a attiré les Visigoths? C'est les toits dorés. Mais, moralement parlant, Rome est cassée. Faut imaginer la fille de l'empereur emmenée comme esclave, mariée de force à un roi barbare. Comment est-ce que l'Empire a pu en arriver là? Bon. Rome survit à cela, mais d'autres malheurs arrivent. Devant Chalon-sur-Marne, eh bien, il fait de l'ombre à l'empereur et Valentinien III, dans un couloir obscur, après avoir donné audience à Aësius, va le faire assassiner. Les Romains, désabusés, diront: l'empereur vient de se couper la main droite avec la gauche. Seulement, les amis d'Aësius, il en avait de nombreux, tellement indignés, 6 mois après, assassine Valentinien III. Et que se passe-t-il? Genséric, à ce moment-là, déclare: j'aimais tellement ce bon empereur Valentinien III, je dois absolument le venger et venir régler mes comptes avec ses assassins. Et il débarque en Italie et il s'empare de Rome, il pille Rome, et cette fois il la pille, mais les statues, les œuvres d'art, tout y passe. Il remporte tout en Afrique. Il laisse Rome vidée de ses trésors. Deuxième crise épouvantable, mais ce n'est pas fini. En 472, un autre barbare, Ricimer, prend Rome à son tour. Ça devient une habitude. En 489, c'est le tour des Ostrogoths de Théodoric. À ce moment-là, 1,5 million d'habitants, Rome est passée aux 300 000 dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, il va se passer quelque chose de tout à fait étonnant. Théodoric va restaurer une sorte... Les Romains parleront d'âge d'or, mais par rapport à ce qu'ils avaient vécu, évidemment, la comparaison s'impose, ils parleront de la Felicitas Theodoriciana. Bon, c'est un peu exagéré. Mais enfin, pendant 30 ans, Théodoric va en effet ramener certaines tranquillités dans Rome, à ce détail près, qui n'est pas petit, que Théodoric est arien. Mais enfin, le pape réussit plus ou moins à cohabiter. Malheureusement, Théodoric meurt en 526, en laissant la couronne de fer à sa seule héritière. C'est une fille, Amalasonte, et au fils de celle-ci, mais qui n'est qu'un petit garçon. Et bien entendu, les cousins disent « Comment ça, une reine ?» Pas question. Et Amalasonte va être assassinée dans des conditions assez atroces. Son fils étant déjà mort d'alcoolisme précoce, comme il avait 14 ans, c'est tout à fait édifiant. Et avant de mourir, Amalasonte, voyant que les choses tournaient mal pour elle, a écrit à l'empereur de Byzance, c'est alors Justinien, le grand Justinien, en disant « Si vous venez à mon aide, je vous restitue l'Italie ». Justinien, c'est l'empereur d'Orient qui, depuis quelques années déjà, a effectivement entrepris de reconquérir les provinces perdues lors des invasions de 405 et des années suivantes, et qui a déjà réussi le tour de force par l'intermédiaire de Bélisaire, son général, à reprendre toute l'Afrique du Nord et une partie de l'Espagne. Alors l'Italie, pourquoi pas ? Justinien commence à se voir comme l'empereur qui aura reconquis l'Empire d'Occident et repris Rome. Effectivement, Bélisaire va réussir à débarquer en Italie. Les choses ne vont pas si mal se passer que ça. Même, il va réussir à s'emparer de Rome. Nous sommes en 536. En 536, à Rome, dans cette belle maison du Vicus Cauri dont je vous parlais tout à l'heure, qui se dresse maintenant au milieu d'un champ de ruines. Les immeubles n'existent plus, les autres propriétés ont flambé, bon, il n'y a plus que cette maison. Vit donc toujours la famille des Anici, réduite maintenant à un seul représentant masculin, le sénateur Gordianus, et à son épouse Sylvia. Je précise tout de suite que Sylvia n'est autre que Sainte Sylvie. Vit là également les trois sœurs de Gordianus, toutes les trois consacrées, Gordiana, Tarsila et Emiliana. Très sainte femme. Mais malgré tout, on voit bien quelque chose a changé. Rome n'est plus ce qu'elle était, et un sénateur, même comme Gordianus, qui peut se vanter d'être le descendant des plus grandes familles de la noblesse romaine et de compter parmi ses ancêtres les premiers martyrs de l'aristocratie romaine, qui est le consul Marcus Acilius Glabrio, décapité en 90 pour le crime d'athéisme, autrement dit de christianisme. Eh bien, Gordianus sent bien qu'il est une sorte de fossile. Qu'est-ce que le Sénat romain en 536? 6 sénateurs. Qu'est-ce que le Sénat romain en 536? Un conseil municipal. Qu'est-ce qu'être préfet de Rome en 536? L'équivalent d'un maire de ville moyenne. C'est tout de même difficile à admettre. La plupart des aristocrates romains, quand ils ont survécu aux invasions, ont dit un jour, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire dans cette bourgade de province qui est devenue Rome? L'avenir, c'est Constantinople. Et ils sont partis s'installer sur le Bosphore. Gordianus est resté. Gordianus est un vieux romain d'une certaine manière. Et pourtant, il appartient à quelque chose de tout à fait nouveau, ce qu'on appelle l'aristocratie sacerdotale. Alors allez-vous me dire, qu'est-ce que c'est que l'aristocratie sacerdotale ? C'est quelque chose qui est apparu à la fin du IVe siècle, quand les grandes familles du patriciat romain se sont converties au catholicisme. Beaucoup rêvaient d'une vie parfaite, et la vie parfaite, c'est la vie religieuse. Mais en même temps, ces gens avaient le sens de leur famille, de leur grand nom, de leurs ancêtres, et ils se disaient, eh bien, je veux vivre dans le saint propos, comme on disait à l'époque, mais je dois malgré tout assurer ma lignée. Donc, ils se mariaient, ils avaient deux enfants, pas un de plus. Si les enfants en question mouraient en bas âge, qui était très fréquent, eh bien, c'est que Dieu l'avait voulu. Et puis, ils se séparaient de leurs femmes, qui se retiraient dans un couvent et eux-mêmes demandaient la prêtrise. C'est ainsi que le grand-père de Gordianus n'est autre que le pape, Félix III. Être le petit-fils du pape, c'est quand même, ce n'est pas banal. Et voilà comment donc Gordianus est le petit-fils du pape et comment le fils qui va lui naître en 540 et qu'il va baptiser Grégorius, autrement dit c'est un prénom grec qui signifie vigilant, veilleur. Voilà exactement comment Grégoire, né dans une famille de cette aristocratie sacerdotale. Alors, beaucoup d'historiens vous diront l'aristocratie sacerdotale, cela prouve bien que le célibat des prêtres, c'est une invention moderne. Pas du tout. Ces gens-là oublient systématiquement qu'avant d'être ordonnés, ces prêtres-là avaient tout de même commencé par se séparer de leur épouse. Voilà donc notre Grégoire, né en 540, à une date un peu indéterminée. Et voilà que les ennuis recommencent. Pourquoi recommence-t-il ? Parce que Bélisaire a pris Rome, oui, Justinien a reconquis l'Italie. Mais Justinien, c'est un homme qui a d'autres soucis que l'Empire d'Occident. Il a tout l'Orient. L'Orient menacé d'un côté par les tribus slaves et barbares qui déferlent du Danube, et de l'autre par l'ennemi héréditaire des Romains, c'est-à-dire les Perses. Et Justinien, pour faire la guerre et protéger Constantinople, il a besoin d'argent. C'est d'une banalité rare. Alors comment fait-on pour gagner de l'argent quand on est chef d'État ? Eh bien, on décrète de nouveaux impôts. Et de préférence, on ne va pas soumettre les peuples qui vivent près de Constantinople à ces impôts. On va plutôt pressurer les reconquis. Et les Romains vont être accablés de taxes, à un tel point qu'en moins de 5 ans, ils ne vont plus pouvoir supporter l'Empire byzantin. J'allais dire, cela tombe bien, parce qu'en 543, revoilà un nouveau chef barbare, celui-là s'appelle Totila, et Totila déferle sur Rome, l'assiège. Les Romains se disent, l'Empire va venir à notre secours, ça ne peut pas être autrement. Donc ils s'enferment dans Rome, ils subissent un siège épouvantable, une fois de plus, les gens meurent de faim. Je vous ai dit tout à l'heure, il restait 300 000 habitants à Rome, à la fin du siège, il en restera 150 000. Et puis rien. Justinien n'envoie pas de troupes, personne ne vient au secours des malheureux Romains. Et au printemps 544, juste au début du carême, Totila s'empare de Rome, il est d'assez mauvaise humeur, il va massacrer un certain nombre de gens, puis il a une idée assez curieuse, il dit « je vais faire carême à ces braves gens ». Alors comment va-t-il faire carême aux malheureux Romains qui ont survécu ? Eh bien, il va simplement déporter la population romaine pendant 40 jours du côté de Naples. Par malchance, ce printemps-là est épouvantable, il fait froid, il pleut. On va laisser ces pauvres gens logés sous des tentes, quasiment privés de nourriture. Certains historiens byzantins diront que 80% de ce qui restait de la population romaine est morte pendant ces 40 jours. Alors, les historiens byzantins ont un peu tendance à exagérer, mais le fait est que ça n'a pas dû être très gai. Et parmi ces malheureux, eh bien, il y a Gordianus, Silvia et le petit Grégoire qui a alors 4 ou 5 ans. Et puis il y a les trois sœurs de Gordianus, les trois saintes filles. Là va arriver quelque chose qui paraîtra à Gordianus et à ses proches bien plus épouvantable que tout le reste. Gordiana, écœurée de tout cela, va partir avec un homme rencontré à cette triste occasion. Et encore, comme disait saint Grégoire, si ma tante avait déchu, mais si elle avait déchu en épousant quelqu'un d'une famille convenable, mais elle est partie avec l'un de nos fermiers. Comble de l'horreur. À Pâques 544, on autorise les survivants à rentrer à Rome. Vous imaginez bien dans quel état ils trouvent leur demeure. 40 jours pour vous piller, il ne reste pas grand-chose. Mais bon, on recommence, on se réinstalle. Et l'année suivante, eh bien, Byzance va enfin se décider à envoyer des troupes, reprendre Rome, chasser Totila. Et cette fois, on a l'impression que la paix est revenue, que Byzance est revenue, que l'Empire va se réinstaller. Et Gordianus va éprouver une joie immense en se disant, voilà, depuis trois générations, quatre générations, par la force des choses, nous avons servi l'Église, mais mon fils va pouvoir renouer avec la tradition familiale, il va servir Rome et l'Empire. Grégoire a 15 ans, c'est un grand garçon, assez sportif, un grand cavalier. Il aime bien la bonne chair, ce qui fait qu'il a tendance un peu à s'enrober. Mais il est brillant, remarquablement intelligent. Il a toutes les qualités, il va faire une grande carrière. D'ailleurs, il est quasiment fiancé à une lointaine cousine qui s'appelle Rusticiana. Et premier choc, les parents de Rusticiana disent un jour « C'est quand même pas très assuré, l'avenir de Rome. » Puis vraiment, c'est un peu province. Nous, on part pour Constantinople. Et Gordianus dit, vous emmenez votre fille ? Oh ben oui, on emmène notre fille, quand même. Voilà comment les fiançailles de Grégoire sont rompues, il a 16 ans. Il est extrêmement peiné, il était sincèrement épris de Rusticiana. Mais, bon, que voulez-vous, les choses sont ce qu'elles sont. Il va finir par oublier, d'autant qu'il y a ses études qu'il faut poursuivre. Et là, nous allons assister à quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il ne faut pas perdre de vue quand on parle de saint Grégoire. Il appartient à une génération nouvelle. Je veux dire par là que, pendant très longtemps, si vous lisez saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, enfin les pères de l'Église latine, vous verrez qu'ils sont pétris de références classiques, qu'ils écrivent un latin, bon, saint Ambroise, c'est le latin de Cicéron. On retrouve exactement les mêmes périodes, les mêmes formules. Et puis surtout, il y a ces citations, plus fort que lui, saint Ambroise, il ne peut pas s'empêcher de citer les auteurs classiques à tout propos, les auteurs païens. Quant à saint Jérôme, il en est tellement pénétré que lorsqu'il est chassé de sa ville, quand il a une vingtaine d'années, il va partir pour la Terre Sainte. Il faut imaginer saint Jérôme partant à pied de l'Italie du Nord jusqu'en Syrie. Qu'est-ce qu'il emporte ? Pas des provisions, rien du tout. Il emporte sa bibliothèque sur son dos. Il va faire 2000 km avec ses livres sur son dos. Il ne les lâchera pas. Ses livres païens, Cicéron, Tacite, Sénèque. Et vous savez qu'un jour, saint Jérôme sera très malade, il attrapera la typhoïde, il manquera en mourir. Il est quasiment mort, on va vouloir l'enterrer. Et dans une espèce de coma, il va faire un rêve, il rêve qu'il apparaît, qu'il est jugé, il est devant le trône de Dieu. Et le Christ lui dit, mais qui es-tu ? Je suis Jérôme, je suis chrétien. Et là-dessus, l'ange gardien de Jérôme se dresse, il dit, non, Jérôme, tu n'es pas chrétien, tu es cicéronien. Et le pauvre Jérôme, quand il va revenir à la vie, va se dire, mais c'est affreux. Mon Dieu, je vous jure que je ne rouvrirai jamais aucun de ces horribles auteurs païens. Et on lui dira, mais tu ne tiendras jamais parole. Il essaiera de tenir parole. Mais Grégoire, c'est autre chose. Grégoire, À l'évidence, il n'a jamais ouvert aucun auteur classique. Je vais vous dire en toute franchise, quand vous lisez Saint Grégoire dans le texte, vous voyez tout de suite qu'il n'a lu aucun auteur classique. Le latin de Saint Grégoire, par rapport au latin classique, c'est une pure abomination. Ce n'est plus du latin, ce n'est pas encore de l'italien, c'est une chose... Bon, n'insistons pas. Mais ça se lit facilement, je vous rassure. Et donc, Grégoire n'a lu aucun auteur classique, il ne lit que des auteurs chrétiens. Et lui-même pense qu'il s'en porte admirablement bien. Mais il le fera payer cher à d'autres. Je vous raconterai l'histoire de Saint Didier de Vienne tout à l'heure. Bon. Voilà donc ce jeune homme élevé dans une ambiance malgré tout très pieuse. Sa sainte tante Tarsila va mourir en odeur de sainteté, au sens le plus propre du terme, quand elle va rendre l'âme, un parfum de rose et de violette va se répandre dans la chambre. Doit-elle a chassé toute sa famille en disant « Partez, mon époux arrive ». Vierge consacrée. Et comme il dira, ma sainte tante avait vécu si pieusement que l'on put constater en faisant sa toilette funèbre que ses genoux ressemblaient à ceux d'un vieux chameau cagneux. Bon, mais pour le moment, Sainte Tarsila, ce n'est quand même pas le modèle absolu de Grégoire. Il ne va pas renoncer pour si peu à sa vie agréable et il ne va pas tarder à entrer dans la carrière. Il va être nommé édile, prêteur, il va faire une carrière magnifique, tellement magnifique qu'il va finir par en perdre totalement ou presque le sens des choses de Dieu. On ne tarde pas à s'apercevoir en haut lieu que ce jeune fonctionnaire est remarquablement brillant. Il est d'une intelligence supérieure, d'une aisance supérieure. Ce que les autres font en 4 jours, lui, il le fait en 4 heures. Il y a des gens comme ça. Mais en même temps, il a un caractère absolument épouvantable. Travailler avec Grégoire, ce sera toujours un véritable calvaire. Pour vous donner une idée du caractère de Saint Grégoire, je vais vous citer quelques passages de ses lettres relevés dans sa correspondance à l'époque où il est pape. Donc, après avoir fait tout de même de gros efforts pour se corriger de son défaut dominant, vous aurez peut-être deviné que c'était la colère. Et écrivant à un collaborateur, « Si tu avais simplement le quart de la moitié du tiers de l'intelligence d'un crétin normal, tu aurais compris ça tout seul. Si seulement tu travaillais, mais tu n'es qu'un abruti. » Bon, je pourrais vous en citer 50 du même style. Alors après, les gens lui disent, « Tu sais, tu nous as fait de la peine. »« Ah bon, je vous ai fait de la peine ? Faut pas faire attention, vous savez, je dis des choses que je pense pas. » Bon, ça, c'est Saint Grégoire. Vous trouverez dans Saint Grégoire des passages admirables sur la colère. Il vous expliquera comment dompter la colère. Il n'en parle si bien que parce qu'il en a lui-même abondamment fait l'expérience. Et je ne suis pas certaine qu'il ait tellement mis en application ses propres conseils s'agissant de lui-même. Enfin, le fait est que nous avons là un homme remarquable, mais qui ne pense quasiment plus à Dieu. Et puis un jour, on est en 568, il est au sommet de sa carrière, il a 28 ans, on l'a nommé prêteur urbain à 28 ans, ce qui est extraordinaire. Et voilà qu'un nouveau drame va frapper l'Italie, les Lombards vont déferler sur le nord. Les Lombards sont un peuple scandinave qui, depuis 200 ans à peu près, traîne dans les Balkans. Et malheureusement, les Balkans deviennent de moins en moins agréables à vivre à l'époque parce qu'il y a des tribus qui n'arrêtent pas d'arriver d'Europe centrale, les Slaves, entre autres. On est un peu à l'étroit dans les Balkans et les Lombards se disent, en 567, tout de même, on pourrait aller voir ailleurs, il paraît que l'Italie est riche. Ça pourrait être sympathique de s'installer là-bas. Le roi des Lombards, il s'appelle Alboin. Alboin, oui, mais on ne sait pas très bien ce qui nous attend là-bas. Alors moi, je veux bien passer un contrat avec les Slaves pour leur laisser nos territoires, parce qu'on va conquérir l'Italie, mais on ne sait jamais. Peut-être que les Byzantins nous repousseront et qu'on sera obligé de revenir. Peut-être que ça ne nous plaira pas. Après tout, on ne connaît pas. Puis peut-être aussi que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants auront envie de revenir ici. Par conséquent, ils vont signer un contrat avec les Slaves, je dis bien un contrat, un véritable contrat juridique, leur louant leurs anciens territoires pendant 200 ans, une sorte de droit de bail, avec possibilité d'expulser les Slaves au cas où ils seraient obligés de revenir dans les Balkans. Ne vous demandez pas pourquoi les Lombards vont devenir les grands banquiers de l'Italie médiévale. En attendant, les Lombards vont déferler sur l'Italie, ils vont s'emparer d'Aquilée. Autrefois, on appelait Aquilée le verrou de l'Italie. Je peux vous dire que c'est un verrou qui, pendant 200 ans, n'a pas cessé de sauter. Ils vont déferler sur l'Italie, ils vont arriver à Milan. J'ai oublié de vous préciser un détail, que vous ayez une idée quand même de la délicieuse personnalité du roi Alboin. Alboin avait épousé en première noce une petite fille de Clovis, laquelle est morte, et il s'est remarié avec une certaine Rosemonde. Rosemonde, c'est une princesse Gétule. Gétule, c'est encore un petit peuple slave barbare que les Lombards avaient écrasé. Donc après avoir écrasé les Gétules, Rosemonde était charmante, Alboin l'a épousée, il ne lui a pas demandé son avis, à quoi ça servait. Et pour vous donner une idée quand même du caractère du personnage, tous les soirs ou presque, il disait « Femme, va me chercher à boire ». Je ne suis pas très gracieux, mais... « Dans ma coupe préférée ». Qu'est-ce que c'était la coupe préférée du délicieux Alboin ? C'était un crâne. Un crâne cerclé d'or et incrusté de pierreries, parce que quand même, c'est un homme raffiné. Mais attendez, le plus joli de l'histoire, à qui appartenait ce crâne ? Au papa de Rosemonde. Autrement dit, tous les soirs, la pauvre malheureuse était obligée de servir à boire à son délicieux mari dans le crâne de son père. Un soir, un peu exaspérée, elle versera du poison dans le crâne de papa. Je vous dirais qu'Alboin l'avait bien cherché. En attendant, vous voyez tout de même quel est le genre de bonhomme qui arrive en Italie, et Milan a le malheur de résister. On ne résiste pas longtemps aux Lombards, Milan va tomber. Et que va faire Alboin ? Il va simplement faire massacrer toute la population masculine, je dis bien toute, depuis le bébé au berceau jusqu'au vieillard de 100 ans. Il ne restera pas un homme, un enfant, un petit garçon dans Milan. Puis après quoi, il va faire vendre sur les marchés gaulois toutes les femmes, toutes les petites filles. Voilà qui est simple et net. Puis il faut voir aussi le côté psychologique de la chose. Après ça, les autres villes d'Italie n'auront pas du tout envie de résister à Alboin, et elles ne résisteront pas. Mais tout de même, il faut s'amuser en route. Qu'est-ce que vous voulez ? Une ville qui ne résiste pas, bon, on ne peut pas la prendre d'assaut, on ne peut pas massacrer sa population. Mais, est-ce que j'ai oublié de vous le dire, Alboin est arien. Alors, à défaut de massacrer les populations, puisqu'il a quand même un certain sens des affaires, des populations massacrées ne paieront plus d'impôts. Mais sur qui va-t-il se passer les nerfs, notre bon Alboin ? Sur les monastères. Il va systématiquement massacrer tous les moines, toutes les religieuses, tous les prêtres qu'il rencontre. C'est une abomination. Et voilà que tous les gens qui apprennent l'arrivée des Lombards vont fuir, que voulez-vous ? C'est logique. Ils vont fuir vers le sud. Ils vont arriver à Rome. Et Grégoire, absolument ahuri, va voir déferler ses hordes. Comme il dira plus tard, j'ai vu arriver des moines qui n'avaient plus d'abbés, des abbés qui n'avaient plus de moines, des abbesses qui ne savaient plus ce qu'elles avaient fait de leurs filles, des patriciennes qui avaient vu massacrer leurs maris et leurs fils devant elles, des femmes qui cherchaient désespérément leurs enfants et des enfants qu'on avait ramassés sur la route qui ne savaient pas d'où ils venaient et qui étaient leurs parents. Des centaines de milliers de malheureux arrivent dans Rome, ils n'ont plus rien, ils meurent de faim, ils meurent de misère. Grégoire va devoir faire face à cette immense catastrophe humanitaire, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend avec horreur qu'il n'a pas saisi à temps ce que Dieu voulait de lui, que cette crise atroce qu'il est obligé de porter à bout de bras, s'il avait su s'écarter à temps des affaires mondaines, un autre l'aurait géré à sa place. Il le dira plus tard, ne vous alourdissez pas du souci des choses terrestres, ne faites pas attention à ce que vous avez, mais à ce que vous êtes. Mais il y a une autre chose qui va beaucoup marquer Grégoire à ce moment-là, c'est que cette épouvantable invasion lombarde, Constantinople ne va strictement rien faire pour l'arrêter. Il y a des troupes, pourtant, il y a des troupes à Ravenne, il y a des troupes à Bénévent. Personne ne va venir. L'exarque va laisser les Lombards déferler sur l'Italie. Et Grégoire, pour la première fois de sa vie, lui qui est un haut fonctionnaire, loyaliste, attaché à l'Empire, au système impérial, se dit « l'Empire est une chose abominable et les intérêts de l'Italie ne sont pas ceux de l'empereur ». Et c'est une question qui va l'obséder pendant très longtemps. Et il va envoyer sa démission à l'empereur, qui est le successeur de Justinien, c'est son neveu Justin II. Et l'empereur va la refuser. Et non seulement il va la refuser, mais il va nommer Grégoire préfet de Rome. À ce moment-là, Grégoire se dit « c'est mon châtiment, c'est parce que je n'ai pas su partir à temps ». Et c'est un châtiment d'autant plus cruel que devant les désastres du temps, il est revenu à la fois de sa prime jeunesse et il entend l'appel de Dieu. Grégoire va rester préfet de Rome 3 ans, c'est la durée habituelle de ce genre de mandat. Et enfin, en 575, il va pouvoir sortir de charge avec un soupir de soulagement. Il se dit « c'est fini, je ne veux plus entendre parler de tout ça, je me fais moine ». J'allais dire, par chance, son père est mort dans l'intervalle. Son père qui n'aurait jamais toléré que Grégoire abandonne la carrière publique. Et Grégoire va transformer sa belle maison du Vicus Cauri en monastère qu'il va placer sous le patronage de Saint-André. Et Grégoire, dans son désir de pénitence et de modestie, ne va pas vouloir être abbé. Il donne ses propriétés, il donne sa fortune, qui est encore considérable, il a beaucoup de biens en Sicile. Mais il va choisir pour diriger la maison un des innombrables réfugiés qu'il a trouvés et qui sont arrivés à Rome, qui est un abbé de l'Est de l'Italie qui a perdu pratiquement tout son troupeau, qui s'appelle Valencio, et qu'il va nommer. Et parmi les innombrables réfugiés qui sont arrivés à Rome, il y en a un certain nombre qui viennent de Nurcie. Et ils vont parler à Grégoire, extrêmement intéressé de leur fondateur. De leur fondateur qui s'était installé au Mont Cassin. J'ai oublié de vous dire que dans l'intervalle, les Lombards avaient contourné Rome, que donc ils étaient déjà en Italie du Sud. Un certain Benoît. Grégoire n'avait jamais entendu parler de Benoît. Il est tout à fait intéressé. Il dit « mais parlez-moi un peu de votre fondateur ». C'est comme ça qu'il découvre la règle bénédictine, dont il admire l'équilibre. Je ne vais pas vous faire l'éloge de la règle bénédictine, vous la connaissez parfaitement. Et il va dire à Valencio, c'est ça qu'il faut adopter. Saint Grégoire doit être un monastère selon cette règle. Ce qui va avoir lieu. Et dans un premier temps, c'est une vie toute divine. Et quand je dis toute divine, le quotidien de Saint André, tel qu'il apparaît à travers les écrits de Grégoire, c'est une vie de miracle. Un jour, Grégoire a pris l'habitude de traiter systématiquement à table tous les midis 12 pauvres. Et un matin, ils ne sont pas 12, ils sont 13. Bon, on n'a pas prévu 13 repas. Qu'à cela ne tienne, Grégoire dit « ça ne fait rien, je lui donnerai mon repas ». Il va chercher son repas. Si vous allez à San Gregorio Magno, vous verriez une gigantesque table de marbre blanc. On dit que c'est la table sur laquelle Saint Grégoire servait ses hôtes. Et Grégoire donne son repas au 13e convive, et à l'instant où Grégoire le pose devant lui, le convive se métamorphose, c'est un ange. Il disparaît. Grégoire pourra manger ce jour-là. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire de sauter un repas? Je vais vous dire ce que ça fait, c'est que Grégoire est malade. Grégoire est très malade, il souffre d'un ulcère d'estomac. Il s'est fait tellement de tracas pendant qu'il était dans les affaires du monde. Il a eu tellement de soucis, tellement de problèmes à régler, qu'il a fini par attraper un ulcère d'estomac. À l'époque, un ulcère, ça ne se soigne absolument pas. On vous donne de l'argile, ça ne sert strictement à rien. Et ça allait tant qu'il faisait 3 repas par jour, et des bons repas. parce que quand vous mangez, votre ulcère d'estomac vous laisse tranquille. Mais quand vous êtes à jeun, ça devient un véritable supplice. Puis c'est un ulcère ouvert, qui commence à faire des hémorragies gastriques, Grégoire. Et les médecins, ils ne savent pas, les médecins de l'époque ne savent pas soigner un ulcère d'estomac. Par contre, ils savent très bien comment ça évolue. Ils lui disent de manière très sympathique, tu sais, de deux choses une, bien ça va cancériser et tu mettras des années à mourir dans des souffrances atroces. Ou bien tu vas partir d'une hémorragie, tu vas te noyer dans ton propre sang. C'est extrêmement réjouissant comme perspective. On a déjà essayé, on a demandé aux Irlandais, on a demandé aux Cornouaillais, on a demandé aux Bretons, on a demandé aux Gaulois. Personne n'a voulu y aller. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Tu le sais. Qu'ont répondu les Irlandais quand on leur a suggéré d'aller convertir les Angles? Ils ont répondu, nous aimons l'Église et nous tenons à sa réputation. Si nous allons convertir ces sauvages-là, si nous les baptisons et qu'après, dans une guerre, nous les tuons, ils iront au paradis. Et nous risquons de les retrouver là-haut. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Pensez au bon renom du paradis. Et voilà comment les Angles et les Saxons croupissent dans leur paganisme. Et en attendant, on dit fermement à Grégoire qu'il n'est pas question qu'ils partent pour l'Angleterre. Mais par contre, puisqu'il s'ennuie à Saint-André, il faut bien dire les choses par leur nom, le pape, c'est Pélage II, lui dit, écoute, je vais t'occuper, moi. Vois-tu, tu constates toi-même, tu es un ancien politicien, tu vois bien que les choses vont mal. Tu constates toi-même que l'empereur ne fait pas grand-chose pour nous aider. Il faut savoir que l'empereur, c'est le pauvre Justin II, et il est bon à enfermer. Il se prend pour un oiseau. Alors, de temps à autre, il monte sur les toit du palais de Constantinople, il fait cuit, 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 je vais me jeter du haut du toit. Alors on le rattrape, on dit au Basileus, ne saute pas, tu n'es pas un oiseau. Mais enfin, il a quelques difficultés à gérer la situation, c'est manifeste. On peut mal lui expliquer comme ça va très mal à Rome. Par contre, si Justin II débloque légèrement, sa femme, la Basilissa Sophie, tout à fait saine d'esprit, elle. Et Pélage dit à Grégoire, tu pourrais peut-être aller à Constantinople, expliquer à la Basilissa que les choses vont très mal. Enfin, tu l'expliqueras à la Basilissa, mais tu l'expliqueras surtout au monsieur qui est avec elle, qui s'appelle Tibère, et qui est le véritable patron. Et si tu sais t'y prendre intelligemment, tu pourrais peut-être faire en sorte de nous ramener des troupes. Mais à quel titre vais-je aller à Constantinople? Dit Grégoire. Eh bien, je vais tout simplement te nommer apocrisiaire. Qu'est-ce que c'est qu'un apocrisiaire? C'est à peu de choses près l'équivalence d'un nonce apostolique. Mais pour être apocrisiaire, il faut tout simplement être ordonné, ce que Grégoire n'est pas, et être diacre régionnaire, c'est-à-dire être tout simplement, nous dirions aujourd'hui, être membre de la curie. Et Grégoire, catastrophé, dit, mais je ne veux pas être diacre régionnaire, moi je suis moine. Et Pélage lui dit, écoute, j'ai bien compris que tu t'ennuyais, que si tu te plaises ou non, tu as fait vœu d'obéissance. Je te nomme diacre régionnaire et tu pars à Constantinople. Le pauvre Grégoire part la mort dans l'âme, comme il le dira, c'est en quittant Saint-André que je compris que j'aurais dû préférer Dieu aux œuvres de Dieu. Il arrive à Constantinople. On l'installe dans un palais somptueux. L'ambassade, j'allais dire l'ambassade du Vatican, c'est un peu ça, à Constantinople, c'est un palais, la jolie petite villa du Vicus Cauri, c'est une bicoque de campagne en comparaison. Une vue sur le Bosphore, à vous couper le souffle, de l'or, du marbre, puis des simarres de soie pourpre pour Grégoire, chamarré d'or, on représente quand on est l'apocrisiaire du pape quand même. Il se dit, je suis damné, Dieu m'a damné, je ne veux pas rester là. Il va y rester 7 ans. Ça va assez mal se passer. D'abord parce qu'il s'ennuie à mourir. Alors pour s'occuper, il va écrire. Tout le monde sait que l'écriture est ce qui occupe les gens désoccupés. il va décider de commenter Job. Il va écrire les Moralia, les morales sur Job. Alors, à l'origine, il voulait faire de l'exégèse classique, comme en faisait saint Ambroise ou saint Augustin. Le problème, vous savez, c'est qu'il trouve ça très vite très ennuyeux. L'exégèse historique, théologique, allégorique, morale, au bout du premier chapitre, ça ne l'inspire plus du tout. Il va se mettre à disserter simplement sur ce que lui inspirent les passages de Job. Ce sont de très beaux passages, d'ailleurs, où il explique que les souffrances ne sont pas un châtiment, mais une récompense. Et on vous dira, mais écoutez, comparez le style de ce pauvre Grégoire et la pensée de ce pauvre Grégoire à celle de saint Augustin, par exemple. Saint Augustin, c'est admirable. Saint Grégoire, c'est du saint Augustin démarqué et réduit à rien. Non. Saint Grégoire, c'est la pensée augustinienne mise à la portée des gens de son temps. Et ce n'est pas si facile. On retrouve certains passages de Grégoire dans des ouvrages qui sont manifestement destinés même pas au clergé, mais à l'épiscopat. Et sur quel modèle s'est-il fondé ? Sur un texte de saint Augustin qui s'appelait « De l'art de catéchiser les rustres ». Ce qui en dit long sur l'état du clergé au temps de saint Grégoire. Mais au moins, il y voit clair. Et l'autre problème, c'est d'avoir nommé Grégoire apocrisière à Constantinople. Non seulement il s'embête, mais qu'en plus, il le répète à longueur de courrier, « Je ne sais pas le grec ». Or, depuis un certain temps déjà, la langue de l'Empire d'Orient, c'est le grec. Et Grégoire, effectivement, il ne sait pratiquement pas le grec. Baragouine quelques mots. Mais ça va lui poser un certain nombre de problèmes, parce que même s'il comprend très mal le grec, il va entrer en controverse avec le patriarche de Constantinople. C'est un certain Eutychius. Eutychius est un esprit délié qui manie le grec, langue théologique par excellence. Et il est lancé dans un... Il vient de publier, Eutychius, un ouvrage qui est assez inspiré de la pensée d'Origène concernant la résurrection et les corps glorieux. Et Origène avait été extrêmement contesté parce qu'il expliquait qu'à la résurrection, à son avis, il faut dire que lui-même a vu des problèmes personnels qui pouvaient justifier cette opinion, qu'à son avis, on ne ressusciterait pas homme ou femme, mais qu'on ressusciterait dans une sorte de nature angélique. Et Eutychius va reprendre cette thèse en disant « Non, ce serait absolument... D'abord, c'est dégoûtant, si on y réfléchit, la résurrection de la chair, des corps pourris qui reviendraient à la vie. Non, Dieu ne va pas faire du neuf avec du vieux, il va tout recréer. Et surtout, on ne sera ni homme ni femme, parce qu'au fond, tout ça, c'est dégoûtant. » Et Grégoire est absolument choqué. Je vais dire, d'une certaine manière, Grégoire est le premier théoricien anti-gender. Et il va partir dans une polémique forcenée avec le malheureux Eutychius, qui va d'ailleurs en tomber littéralement malade, parce qu'il n'a pas très envie de se mettre l'apocrisière à dos, c'est quand même ennuyeux. Il va même en mourir de contrariété, Eutychius, c'est-à-dire à quel point il était blessé par la polémique, parce qu'il va quand même être condamné dans l'affaire. Or, le plus beau de l'histoire, c'est qu'en fait, Eutychius avait des positions parfaitement orthodoxes, j'entends orthodoxe, non pas au sens orthodoxe grec. Et ce pauvre Eutychius, le problème, c'est que Grégoire avait mal traduit ses prises de position. Je ne sais pas le grec. Et Grégoire va rentrer à Rome en disant « J'ai pourfendu un épouvantable hérétique. » Il est venu à récipiscence, sur son lit de mort, il m'a dit qu'il était certain qu'il ressusciterait dans ce corps-là. Et en fait, quand vous ouvrez les théologiens byzantins de la même époque, vous tombez sur un passage qui est tout à fait édifiant. « Lorsque mourut le saint patriarche Eutychius, homme d'une intelligence déliée, d'une profonde érudition, se trouvait par malheur à Constantinople un apocrisiaire latin, homme à l'esprit borné et d'une sottise rare, qui contraria, faute de les comprendre, les théories de notre malheureux patriarche. Pour lui complaire, il fut obligé d'arriver à une version simplifiée de sa pensée, car ce rustre occidental n'y pouvait rien comprendre. » Grégoire n'a jamais vu ce passage, tant mieux. Avec le délicieux caractère qu'il avait, je ne sais pas comment il l'aurait pris. Bon, vous allez me dire, il fait autre chose tout de même que se quereller avec le patriarche et écrire des traités sur Job. Oui. À son grand malheur, bon, il est diplomate. Il va essayer, en effet, puisqu'on l'a envoyé là-bas chercher l'appui de la Basilissa et de Tibère, le co-régent, il va essayer de les obtenir. Comment ? Vous vous souvenez que Grégoire avait été fiancé en son jeune temps, cette jeune fille qui s'appelait Rusticiana. Rusticiana, qui est partie à Constantinople, qui s'y est mariée. Comme il le dit, j'ai été très choqué en la revoyant. C'est 30 ans de plus, c'est sûr, il a été très choqué. Non, ce n'est pas ça. Il a été très choqué parce qu'elle avait pris les mœurs de l'Orient, et elle ne sortait plus que voilée. Comment une Romaine pouvait-elle sortir voilée ? Bon. Mais Rusticiana, c'est une grande dame, une très grande dame qui a ses entrées au palais impérial. Et elle a beaucoup de relations. Et vous allez voir à quel point notre pauvre Grégoire n'est pas doué pour la diplomatie. Un apocrisiaire un peu plus mondain dirait à Rusticiana, « Cher ami, ne pourriez-vous pas me présenter au général Machin ? Ne pourriez-vous pas me présenter à l'ambassadeur Truc ?» etc. Et puis, aux autres amis de Rusticiana avec qui il a fait connaissance, Dominica et d'autres, il pourrait également dire « Votre mari ne pourrait-il pas mettre de quelques secours ?» Pas du tout, il leur dit « Vivez dans la pauvreté, renoncez à ses plaisirs mondains, ne venez plus à la cour, ne vous occupez plus de tout cela, et si jamais Dieu rappelait votre époux à lui, entrez dans un monastère. » Autrement dit, avec une sorte d'application extraordinaire, Grégoire va se tisser un réseau de relations mondaines qu'il va systématiquement expédier au couvent. Ce qui est d'une maladresse rare. Bon, on va quand même finir par le renvoyer à Rome, parce que, tout simplement parce que l'empereur est mort. C'était Tibère qui avait quand même réussi à se débarrasser de la pauvre Sophie et à se faire couronner. Et un jour d'été 586, au mois d'août 586, Tibère... On arrive, quelqu'un lui dit « Excellence, regarde, ton plat préféré, ton fruit préféré, des mûres. »« Ah, dit Tibère, des mûres, j'aime tellement ça. Une pleine corbeille de mûres. » Et il avale 4 kilos de mûres, comme ça, en une heure. Et une heure après, « Ah, oh, je vais mal, je vais très mal. Oh, je souffre, ah, je meurs. On m'a empoisonné. Les mûres étaient empoisonnées. » Effectivement, les mûres étaient empoisonnées. Ah, les méchants! Mais ils veulent ma place, ils ne l'auront pas. Appelez ma fille! On va chercher la fille unique de Tibère, Constantina. Allez chercher le général Maurice. Maurice est effectivement le meilleur officier de l'Empire. Il dit: Maurice, tu es célibataire, épouse ma fille. Et devant le lit d'agonie de Tibère, on marie Constantina et Maurice. Et à peine la cérémonie terminée, Tibère rend l'âme. Ça tombe, je n'ose pas dire ça tombe bien. Mais enfin, il se trouve que Maurice, c'est un ami de Grégoire. Rusticiana, qui est une femme intelligente, lui avait dit, tu sais, il y a un homme d'avenir tout de même à la cour, c'est le général Maurice. Tu devrais te mettre bien avec lui. Grégoire est tellement bien avec Maurice qu'il est le parrain de son fils aîné. Première chose que va faire... Effectivement, Maurice, c'est de lui dire, écoute, reste jusqu'à la naissance du premier prince, tu le porteras sur les fonts baptismaux. Vous allez me dire, voilà qui commence bien. Grégoire en est persuadé, lui dit, mais maintenant, puisque tu es empereur, tu vas bien vouloir m'envoyer des troupes et nous débarrasser de ces horribles Lombards. Oui, oui, mon cher ami, je te le promets. Rentre à Rome en toute tranquillité, et les troupes te suivent. Grégoire rentre. Les troupes ne suivront jamais. Pourquoi ne suivront-elles jamais ? Parce que Maurice a un défaut rédhibitoire, il est radin. C'est un épouvantable radin. Il tondrait un œuf, c'est la réputation qui lui restera. Et d'abord, il ne peut pas envoyer de troupes parce qu'il n'a pas de quoi les payer. Et les troupes byzantines, comme toutes les troupes, quand vous ne les payez pas, elles n'ont pas envie d'aller se faire tuer. Et donc, il n'a pas de troupes à envoyer là-bas. Et Grégoire va s'apercevoir avec horreur pendant les 20 années suivantes qu'il ne verra jamais le bout du nez d'un soldat byzantin. Il rentre à Rome soupir de soulagement, il est rentré dans son cher Saint-André. Valencio est mort, donc on lui dit « Tu n'as qu'à prendre la succession de Valencio, on t'a tellement attendu. » Et là, on va se situer un épisode qui est intéressant parce que parmi les moines de Saint-André se trouve un certain Justus. Juste, il n'est pas entré au monastère par vocation, il y est entré parce qu'il avait un frère aîné qu'il aimait beaucoup, qui lui avait la vocation. Son frère est entré à Saint-André, il l'a suivi. Ce frère est mort. Justus commence à se dire, maintenant que mon frère n'est plus là, qu'est-ce que je m'embête dans ce monastère? Je voudrais partir. Et que voulez-vous pour partir? Il faut avoir un petit pactole. Et sou par sou, Justus arrive à détourner l'argent du monastère et il le cache sous son matelas. Et un jour, Justus tombe malade et le frère infirmier qui refait le lit vient trouver Grégoire lui disant, tu sais, sous le matelas de Justus, j'ai trouvé de l'or. Il a fait vœu de pauvreté. Ah, miséricorde, dit Grégoire, le malheureux. Il est mourant, il est damné. J'ai une idée. Tu vas laisser ce trésor maudit sous son matelas, mais vous allez. Bon, tu vas lui donner les soins que son état nécessite. Mais personne ne lui adressera plus la parole, afin qu'il vienne à récipicence et qu'il comprenne l'étendue de son crime. Et le pauvre Justus, en effet, va peu à peu comprendre avant de mourir ce qu'il a fait. Il va faire pénitence. Grégoire pousse un soupir de soulagement, son moine n'est pas damné. Le soir, la nuit qui suit les obsèques, il a un rêve. Il voit Justus qui erre, comme une âme en peine, c'est le cas de le dire. Il est très désolé, il se dit, bon, il n'est pas damné, mais il est bas, il est bien bas, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il a une aspiration divine. Tu diras la messe pendant 30 jours pour l'âme de Justus. Grégoire le dira plus tard, il dira, j'ai dit la messe. Au bout d'un certain temps, j'ai perdu le compte. Je ne savais plus très bien où j'en étais, est-ce que j'en avais dit 25, 26, 27, 30, je ne savais plus. Et une nuit, je rêve, je vois Justus, revêtu de vêtements brillants, qui me dit « Je te remercie, tu m'as délivré ». Et je vérifie, c'était le 30e soir. Nous avons là l'origine du Trentin grégorien. Vous allez me dire, Grégoire est heureux, il est abbé de son cher monastère, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais non, hélas, rien ne va bien dans le meilleur des mondes. Nous sommes à l'automne 589. Nous entrons dans une période, j'allais dire, de catastrophe climatique, de catastrophe tout court qui vont secouer l'ensemble de l'Europe. On va avoir une série de tremblements de terre, on va avoir des inondations à répétition, des sécheresses, des épidémies. Enfin, toutes les catastrophes possibles et imaginables vont se succéder pendant une dizaine d'années. Et cet automne 589, le Tibre, oubliez le Tibre tel qu'il est aujourd'hui, le Tibre c'est une espèce de torrent furieux, le Tibre va entrer en crue, Rome va être pratiquement totalement inondée, des milliers de gens n'ont pas réussi à se sauver sur les collines, ils vont se noyer. Quand le fleuve finira par se retirer et ça va laisser des cadavres sur les rives en décomposition, donc la peste va arriver là-dessus, la typhoïde. Et en plus, les greniers publics qui se trouvaient dans la vallée du Vélabre ont été noyés, donc la famine s'en mêle. Puis les Lombards sont toujours aux portes de Rome. On espérait que le Tibre déborderait du côté de chez eux aussi, mais pas de chance, il a vraiment débordé juste à Rome. Et les gens sont désespérés, mais réellement désespérés. Grégoire dira, j'ai vraiment cru que c'était la fin du monde cette fois-là. Et tous les soirs, je montais sur la terrasse de Saint-André, je regardais le ciel et je me disais, non, ce n'est pas encore la fin du monde, la lune n'est pas rouge sang et les étoiles ne sont pas en train de tomber du firmament. Par conséquent, nos malheurs vont peut-être durer encore un certain temps. Le 7 février 590, le pape Pélage meurt de la peste. Grégoire est très peiné, il aimait bien Pélage. Mais le pire, c'est que vont faire les Romains? Ils vont dire, nous avons besoin d'un saint pape. La colère de Dieu s'est déchaînée sur nous. Il nous faut un saint. Où y a-t-il un saint dans Rome? Vox populi, vox dei, il n'y a qu'un saint dans Rome. C'est l'abbé de Saint-André, c'est Grégoire. Délégation arrive à Saint-André. Vous êtes pape. Non, je ne veux pas être pape. Non, mais vous êtes pape, on vous a élu, vous êtes pape. Grégoire essaye de biaiser. Je ne veux pas être pape. Je ne peux pas être pape, vous parlez, sans la permission, dit Basileus. Vous allez écrire à Constantinople, à l'empereur Maurice, et vous allez lui dire que vous voulez m'élire pape, et on verra bien ce qu'il répondra. Et dans le même temps, bon, les Romains écrivent à Constantinople, et dans le même temps, Grégoire écrit à Maurice, « Mon cher ami, c'est en ami que je te parle. Pour rien au monde, je ne veux être pape. Quand tu recevras cette lettre, sois gentil et dis que tu t'opposes à mon élévation. » C'est d'une naïveté, mais d'une naïveté. Maurice, c'est un homme d'État. Qu'est-ce qu'il voit ? Pape, un de mes meilleurs amis. Comme ça tombe bien. Ça fait tellement de générations qu'on a des problèmes avec les papes. Pensez à ce pauvre Justinien, un saint homme, la piété incarnée, Justinien. Vous vous rendez compte qu'il a été obligé de persécuter le pape Silvère au point que Silvère en est mort. Silvère est martyr et on traite ce saint homme de Justinien d'assassin de pape. Non, je ne veux pas ce genre d'ennui. Je vais donc élire un pape à ma dévotion. Et il va répondre à Rome, « Je suis ravi que mon ami Grégoire soit élu au pontificat suprême. Je vous donne ma bénédiction. » Grégoire est absolument consterné. Mais Maurice a commis une légère erreur d'appréciation. C'est vrai que quand Grégoire lui écrit, quand il continuera à lui écrire étant pape, c'est très curieux si vous prenez la correspondance de saint Grégoire. Excellentissime, magnificentissime, superbissime, clémentissime, excellentissime. Je me prosterne à tes pieds pour te demander. Non, mais quelle carpette. Mais, derrière les beaux titres, tous les superlatifs adressés à l'empereur, dès que quelque chose ne plaît pas à Grégoire, il n'y a plus personne. Excellentissime, clémentissime, superbissime, je suis au regret, tout en me prosternant à tes pieds, de te dire que je n'accepte pas ta demande. Maurice, quand il le comprendra, en voudra beaucoup à Grégoire. Mais en attendant, eh bien, le 2 septembre 590, Grégoire devient pape. Et on lui dit, écoute, on t'a choisi parce que tu es un saint, mais tu vas faire des miracles, tu vas arrêter la peste. Ah ben oui, ben ça, vous claquez des doigts et la peste s'arrête, ça va de soi. Et Grégoire dit, mais moi, je n'arrête pas la peste, bon, je ne suis pas un thaumaturge, mais par contre, nous allons nous adresser à quelqu'un qui est susceptible d'arrêter la peste. Nous allons organiser une grande procession et nous porterons devant l'icône que j'ai rapportée de Constantinople, l'icône non faite de main d'homme de la très sainte Mère de Dieu que m'avait donnée l'empereur. Selon certaines traditions, cette icône aurait été peinte par saint Luc. Et ce serait elle que Grégoire, quelques années plus tard, aurait remis à son ami, l'archevêque de Séville, saint Léandre, et qui serait l'image de Notre-Dame de Guadeloupe, non pas Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique, mais Notre-Dame de Guadeloupe en Espagne. Et Grégoire fait donc sortir du sanctuaire cette icône de Notre-Dame, il organise une procession, il dit même les gens qui sont malades de la peste, je veux que tout le monde soit dans les rues. D'un point de vue prophylactique, c'est une bonne idée de sortir les pestiférés avec les autres. Et nous dirons en chantant jusqu'à Saint-Pierre et nous implorerons la clémence du ciel. Vous imaginez cette procession dans les rues de Rome, avec l'icône de Notre-Dame devant, ces gens qui se traînent, mourant compris. Et en arrivant devant ce qui n'est encore que le mausolée d'Adrien, un enfant s'écrie « Regardez !» « Regardez sur le toit du mausolée, vous ne voyez rien ?» Les gens regardent, et la foule s'écrie, « Il y a un ange sur le sommet du mausolée. » C'est Saint-Michel. Saint-Michel qui brandit un glaive et qui le remet ostensiblement au fourreau pour signifier que l'épidémie s'arrête. Et le soir même, la peste disparaît de Rome, et les mourants, les pestiférés qui étaient là dans la procession, sont guéris. Cette fois, il n'y a plus de doute. « Tu vois bien !» Grégoire, nous avions raison d'élire un saint pape. Oh, moi, je n'ai rien fait. C'est la Sainte Vierge. Alors, quelle va être la première décision du saint pape? Vous êtes un saint pape, vous venez d'être élu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes confronté à une situation catastrophique à tous les niveaux. Quelle est votre première idée? Eh bien, là où l'on va voir que Grégoire, effectivement, est un saint pape, il ne va pas s'occuper de régler la question lombarde, il ne va pas s'occuper de relancer les négociations avec Constantinople pour obtenir des troupes, il ne va rien faire de tout cela. Il va se retirer dans ses appartements et il va écrire la règle pastorale. La règle pastorale, parce qu'il a compris que la plupart des mots de son temps sont d'abord les mots de l'Église, et que tant qu'il n'aura pas réformé l'Église et le clergé, eh bien, les malheurs du temps continueront. Et cette règle pastorale, c'est une variation autour du bon pasteur. Je ne saurais trop d'ailleurs vous inciter à la lire, parce que c'est un texte admirable qui n'a pas perdu grand-chose de son actualité. On y trouve d'ailleurs des conseils tout à fait extraordinaires, une grande modernité. Je vous cite celui-là parce que c'est d'une psychologie remarquable. Vous avez un collaborateur à qui vous ne trouvez que des défauts. Il se peut fort bien d'ailleurs qu'il n'ait que cela. Alors, s'il n'a pas de qualité, vous veillerez à mettre en avant celle qu'il pourrait avoir. C'est assez admirable. Et il y a cet autre conseil qui, là encore, est d'une extrême modernité. Il ne faut jamais vouloir rester en paix avec les méchants. On entend bien entendu méchant au sens moral et spirituel du terme. Autrement dit, on ne pactise pas avec l'esprit du monde et avec les mauvaises lois. Ce texte admirable, Grégoire, va l'envoyer dans tous les diocèses d'Italie, puis plus loin ensuite. Et il faut bien reconnaître que les diocèses d'Italie en ont besoin. Il commence à recevoir du courrier, on l'informe. On lui dit « L'évêque de Bénévent a ruiné le diocèse. » Ah, et comment a-t-il ruiné le diocèse? Par ses charités? Et pas du tout, il s'est lancé dans les affaires maritimes. Il a affrété une flotte, les navires ont coulé, et tout a disparu. Nous n'avons plus un sou. L'évêque nous a ruinés et de nous. Lettre à l'évêque de Bénévent. « Ignores-tu que le droit de l'Église interdit même à un laïc, quand il a un minimum de responsabilité, de s'engager dans le fret maritime? Je te démets car tu es un fou furieux. » Lettre d'une abbesse napolitaine, une certaine Agnella, très Saint-Père. L'évêque de Naples, ayant en garnison sur ses terres un certain nombre de troupes byzantines, estimant que ce n'était pas à lui de les loger, de les nourrir, a voulu les installer dans mon couvent. J'ai 70 religieuses, dont la plupart n'ont pas 25 ans. Pourrais-tu faire quelque chose ? Évidemment, il écrit à l'évêque de Naples, en disant « Tu vas sortir cette bande de soudards du couvent, et un peu vite. » Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en assez peu de temps, les mauvais évêques vont être chassés, et remplacé par qui? Vous vous souvenez de ce que je vous disais hier à propos de Saint-Martin? Saint-Martin remplaçant systématiquement les évêques qui mouraient par des moines sortis de ces monastères de Marmoutier. Bien, Grégoire va systématiquement nommer au poste vacant des moines de Saint-André. Dans très peu de temps, les choses vont aller beaucoup mieux. Mais il n'est pas seulement confronté à ce problème, il est confronté à des situations incroyables. Il y a des moines, ce qu'on appellera plus tard des moines girovagues, qui ont rompu leur vœu, qui se promènent un peu partout. Il y a des prêtres qui se sont mariés, qui sont installés. On les signalait, ben, ce très saint homme, là, tu le connais. Est-ce que tu savais que c'est un riche, noble campanien? Est-ce que tu savais qu'il était prêtre? Et que Grégoire lui dit, est-ce que c'est vrai que tu étais prêtre? Tu l'étais. Je suis marié, j'ai des affaires, j'ai des enfants. Tu renonces à tout ça ou tu es damné? C'est systématique. Et en relativement peu de temps, en 2 ou 3 ans, cette situation-là est réglée. Il va falloir ensuite, on s'est occupé du clergé, il va falloir s'occuper des ouailles. Ces pauvres gens qui n'avaient plus de prêtres, en bien des endroits, ils sont retournés au culte ancestral. Ils ont relevé la statue de Jupiter ou de Vénus. Ils prient devant elle. On va renvoyer des prêtres, les évangéliser. Et puis, un autre problème qui obsède Grégoire. Il l'avait déjà compris, là. Les intérêts de l'Empire ne sont pas ceux de la chrétienté et de Rome. Il va arriver à une conclusion, mais révolutionnaire. On a dit de Grégoire qu'il était le père de l'Occident moderne. Et c'est vrai. En quoi est-il le père de l'Occident moderne ? À Constantinople, on s'obstine à vouloir reconquérir l'Occident, ramener la loi de l'Empire. Ça ne marche pas. On ruine les pauvres, on les accable d'impôts, et pour rien. Et pendant ce temps-là, en Europe, il y a un certain nombre de nations qui commencent à exister. Il y a l'Espagne, Visigoth. Il y a l'Italie, dont il faut bien admettre qu'un jour ou l'autre, il faudra régler les problèmes avec les Lombards. Il y a la Gaule franque. Il est bien évident qu'on ne chassera plus les Mérovingiens de Gaule. Ce que Grégoire voit naître, c'est l'Espagne, c'est la France, c'est l'Italie. Il dit l'avenir est là. Il faut s'occuper de ces peuples-là et pas des autres. Il faut renoncer aux rêves et au modèle impérial. Il faut s'occuper de ces royaumes en train de naître. Il faut en faire des royaumes véritablement chrétiens. La partie n'est pas gagnée là non plus. L'arianisme est puissant. L'Espagne est arienne. Il va se passer quasiment un miracle en Espagne. Un jour, Léandre, l'archevêque de Séville, que Grégoire connaît bien parce qu'il l'a rencontré à Constantinople, va lui dire « Tu sais, j'étais désespéré parce que mon neveu, le prince Herménégilde, qui avait épousé une des petites filles de Clovis, donc une princesse catholique, mon neveu Herménégilde a été exécuté par son père parce qu'après s'être converti au catholicisme, il refusait de revenir à l'hérésie. Eh bien, la couronne est restée à son frère Récared. Je t'annonce une grande nouvelle, Récared s'est converti au catholicisme. L'Espagne revient d'un seul coup au catholicisme. En Gaule, ben la Gaule est bien catholique, mais la Gaule, c'est un scandale permanent. Il faut reconnaître. On a vu le roi de Paris, puisque la Gaule est coupée en quatre royaumes, il y a un roi de Paris, il y a un roi de Soissons, il y a un roi de Chalon-sur-Marne, il y a un roi de Metz. Le roi de Paris s'appelle Caribert, c'est un homme bien édifiant. Il a répudié son épouse légitime et il vit en concubinage avec une religieuse. Bon, que voulez-vous ? C'est ça la Gaule. C'est aussi des évêques simoniaques, des rois qui trafiquent des choses saintes. Mais Grégoire va s'y prendre très habilement. Il va écrire aux uns et aux autres en disant « Je sais à quel point tu as l'amour de l'Église. Je suis certain qu'en y mettant un peu du tien, tu pourrais peut-être améliorer certaines choses. » Et on va peu à peu les améliorer. Et en Italie même, eh bien, il va se passer une autre sorte de miracle. Ça fait un moment déjà que Grégoire est très conscient que ça ne sert à rien de se battre contre les Lombards. Les Lombards, ils sont là, ils sont bien là. Maintenant qu'ils sont là, la seule chose à faire, c'est de les convertir. Il va se passer quelque chose, là encore, d'extraordinaire. Le roi, il s'appelle Athanagil. Et Athanagil, il va épouser une princesse bavaroise qui s'appelle Théodelinde. Théodelinde est à moitié franque, d'ailleurs, c'est une... pourquoi elle est catholique. Et Théodelinde, comme toutes les princesses de la dynastie franque, a simplement posé une condition à son mariage. Elle a dit « Oui, moi, je veux bien épouser le sauvage, là. » Mais, à une condition, celle qu'avait déjà posée Clotilde autrefois, c'est qu'il me laissera pratiquer tranquillement la foi catholique, et puis surtout, nos enfants seront baptisés dans ma foi à moi. Et Théodelinde va effectivement amener non seulement ses fils, mais même son mari à la foi catholique. Et elle va devenir la correspondante de Grégoire, et il la saluera comme l'espoir de la catholicité, et c'est vrai. Si l'Italie va redevenir entièrement catholique, si la menace lombarde disparaît, c'est à elle qu'on le doit. Grégoire va aussi régler un autre problème, ce qu'on a appelé le schisme des trois chapitres, qui remonte déjà à plus de... à l'époque où le pape Silvère avait été massacré quasiment par Justinien. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'époque, l'Empire d'Orient était en prise à une crise entre les monophysites et les nestoriens. Et L'impératrice Théodora, la femme de Justinien, avait dit « Tu comprends, mon cher mari, tu es un peu dur avec les monophysites. Ce sont des gens puissants et là, tu les contraries pour un rien. Tu viens de les condamner. Tu devrais quand même rétablir la balance et condamner des gens de l'autre bord. » Alors, qui étaient les gens de l'autre bord? C'était des bons catholiques. Et on est allé chercher trois malheureux théologiens chez qui on a cherché, en grattant bien dans leur traité, on a trouvé trois propositions dont Théodora, qui se piquait de théologie, a dit « Ce sont des nestoriens, tu vois bien. Là, là, là et là, il y a trois chapitres de leurs écrits qui sont manifestement nestoriens, donc tu les condamnes. » Justinien donc condamné. Les trois chapitres en question. Et à ce moment-là, l'archevêque de Milan et celui d'Aquilée ont provoqué un schisme en disant « Voilà, on s'en doutait, le pape est monophysite. » Grégoire, ça l'avait beaucoup tracassé pendant des années. Il va réussir, grâce à Théodelinde, là encore, à mettre un terme au schisme. L'arianisme a disparu, le schisme des trois chapitres est vaincu. Que va-t-il se passer? Une preuve de la fin de l'arianisme. On a dit Grégoire n'est pas un pape bâtisseur. Il n'a pas construit une seule église à Rome. Rome, population réduite à 100 000 habitants, des églises partout et personne pour les peupler, que vous voulez, il n'allait pas construire. Par contre, il a récupéré des églises, Grégoire. Il y en a une, ça vous amusera, parce que c'est Santa Agata dei Gotti, qui est l'église du cardinal Burke. Il y en a un très joli récit concernant la réconciliation de Santa Agata. Grégoire vient donc à Santa Agata, ancienne église arienne. Il la reconsacre. Et à ce moment-là, les gens disent il y a une espèce de bête court dans l'église, c'est désagréable. Qu'est-ce qui se frotte contre nos jambes? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un cochon. Oh, qu'est-ce que ce cochon fait dans l'église? Oh, mais c'est le diable, bien entendu. Alors, c'est très agréable pour les Ariens de se faire traiter de cochons diaboliques. Mais preuve à quel point tout de même l'arianisme a baissé, c'est que pas un d'entre eux ne bronchera. Nous sommes en 596. On peut dire qu'en 7 ans, 6 ans, Grégoire a fait un travail prodigieux. Mais il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Sa vieille obsession. Convertir l'Angleterre. Retourner là-bas, s'occuper des sauvages. Vous allez me dire, maintenant qu'il est pape, il ne va pas y aller lui-même. Mais il va s'adresser au prieur de Saint-André, c'est son ami Augustin, il va lui dire, tu vas prendre quelques moines, je vais les choisir moi-même, des garçons sérieux, et vous allez partir pour l'Angleterre. Je me suis arrangé avec la reine Brunehaut en Gaule, elle te facilitera le passage là-bas. D'ailleurs, sa nièce Berthe, la fille du Caribert en question de tout à l'heure, le roi de Paris qui s'était mis en ménage avec une religieuse, Berthe n'est pas la fille de la religieuse en question. La reine Berthe, qui a épousé le roi du Kent, est Albert, te facilitera la tâche. Oui, bon, dit Augustin, pas particulièrement bouleversé par le programme, il faut bien le dire. Et un matin de 596, Augustin et sa douzaine de moines partent pour l'Angleterre en chantant le chant grégorien, bien entendu, mais c'est pas très très gai, ça va pas trop vite. Au début de l'automne, ils arrivent à Cannes, en Provence, et où est-ce qu'on va passer l'hiver? Il y a le monastère Saint-Honorat, le beau monastère Saint-Honorat dans les îles de Lérins. C'est un endroit agréable, on pourrait passer l'hiver en attendant de repartir. Bon, le monastère de Saint-Honorat se fait un plaisir de les accueillir. Le père abbé leur dit « Mais où allez-vous, mes bons frères? Où partez-vous ?»« Ben, on va en Angleterre. »« Qu'est-ce que vous allez faire en Angleterre ?»« On va convertir les Angles et les Saxons. » Et les moines de Saint-Honorat lèvent les bras au ciel et disent « Mes pauvres frères, mais vous ne savez pas, ce sont des monstres, ce sont des sauvages !» Ils découpent les prêtres et les missionnaires en morceaux, ils les mangent, tout le monde le sait. Bon, vous imaginez le fol enthousiasme. Et là-dessus, les moines disent à Augustin, tu crois que le pape le sait? Il n'est peut-être pas au courant. Tu devrais retourner à Rome, lui en parler, lui demander s'il est sûr de ses informations. Oh, c'est une bonne idée, dit Augustin, qui est plus du tout motivé. Je retourne à Rome. Mais là, malheureusement, le pape leur dit, moi, je suis très certain de mes informations. Ils ne vous mangeront pas, ils ne vous croqueront pas. Tout ira très bien, vous repartez. Il va revenir au printemps suivant à Saint-Honoré. Il faut qu'on y aille. Ils vont y aller. Et effectivement, il va se passer quelque chose d'éblouissant. C'est que Berthe a fait du bon travail depuis 15 ans qu'elle est mariée. Et à peine Augustin est-il arrivé que le roi Ethelbert lui tombe dans les bras en disant « Il y a si longtemps que j'attendais des missionnaires. Je suis si content. Baptise-moi, baptise mes enfants, baptise mes gendres, baptise-nous tous. Nous n'attendions que ça. » Voilà comment Augustin deviendra Saint Augustin de Canterbury, primat d'Angleterre. L'œuvre de Grégoire est pratiquement achevée. Vous vous souvenez de cet ulcère d'estomac qui avait guéri miraculeusement avant son départ pour Constantinople ? Bien brusquement, en 598, cet ulcère d'estomac se réveille. Grégoire est tellement malade que pendant les 5 années qui lui restent à vivre, il ne pourra quasiment même plus quitter son lit pour célébrer la messe. Ce qui est extraordinaire, on le voit à travers sa correspondance, c'est qu'il va continuer à travailler. C'est le bourreau de travail qu'il a toujours été, il continue. Et le 12 mars 604, il meurt de son cancer de l'estomac. Il va se passer quelque chose d'absolument étonnant, scandaleux, monstrueux. Ce pape, dont le pontificat est absolument triomphal, ce pape qui a sauvé l'Église, qui a écrasé le schisme, qui a écrasé l'hérésie, qu'on peut considérer comme le père spirituel des nations de l'Europe moderne, ce pape, au lendemain de son décès, va faire l'objet d'une contestation extravagante. Des émeutes vont se déclencher dans Rome. Ce peuple qui l'a nourri avec une générosité sans borne va oser l'accuser d'avoir vidé les greniers publics et d'avoir ruiné Rome. On va essayer de jeter son cadavre à la voirie. Puis ça va se terminer, ça va retomber en quelques jours, on va pouvoir enterrer Grégoire à Saint-Pierre. Et on va pouvoir lui rendre ce qui lui est dû. On va surtout, par-delà l'œuvre qu'il laisse, l'œuvre théologique, le docteur de l'Église, le réformateur, l'évangélisateur de l'Angleterre, le père de l'Europe médiévale, Grégoire fut tout cela. Mais sur sa tombe, il y a une inscription qui résume admirablement le pontificat de Grégoire et son œuvre et sa vie. Cette vie qui clôture en quelque sorte l'Antiquité romaine qui ouvre sur le Moyen-Âge. Le seul titre qui figure sur la tombe de Grégoire, c'est celle-ci, « Il fut le consul de Dieu ». Et c'est une formule qui lui va admirablement. Avez-vous des questions ? Oui ?
Dans plusieurs lettres du pape Grégoire, il a des évêques, il parle de patrimoine de Saint-Pierre en Sicile.
Oui, le patrimoine de Saint-Pierre en Sicile, d'ailleurs, c'est ce qui est admirable, c'est le sien. Le patrimoine de Saint-Pierre en Sicile, ce sont les terres de famille de Grégoire qu'il possédait là-bas et dont il a fait don totalement à l'Église. Et c'est ça le patrimoine en question, il le gère depuis Rome de manière tout à fait remarquable. C'est étonnant que cet homme qui est accablé de soucis qui briserait n'importe qui, il est encore capable de se soucier d'enrichir l'Église à travers ses propres propriétés familiales, et notamment les troupeaux. Alors vous avez des lettres de Saint Grégoire où il vous explique par exemple, ses parents lui ont laissé, je ne sais pas, peut-être 15 000 vaches. Il dit, voilà, la plupart sont vieilles, il faut les vendre. Il n'a rien d'autre à faire que de se débarrasser de ses vaches. Il y a un autre passage qui est admirable également. Pierre, qui est l'administrateur du patrimoine en question, lui envoie un jour des chevaux et des ânes. Et on a une lettre de Grégoire qui est assez drôle d'une certaine manière. Il lui dit « Tu m'as envoyé des chevaux et des ânes. Les chevaux, ce sont des rosses. Tu pourrais aussi bien les envoyer à la boucherie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces bêtes-là? Je te les renvoie. Les ânes sont bien, mais je te les renvoie aussi. Ce n'est pas leur faute. C'est simplement que, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux quand même pas me montrer dans les rues de Rome sur le dos d'un âne. » Alors vous allez me dire, notre Seigneur a entré Jérusalem et bien monté sur le dos d'un âne. Est-ce que le pape était tellement au-dessus du Seigneur qu'il ne pouvait pas en faire autant? Alors je vais vous dire, Grégoire n'était pas dans la même position. Face à l'Empire, face aux Lombards, face au peuple barbare qui déferlait de partout, il fallait qu'il assure. Et effectivement, il avait besoin d'un cheval de race et pas d'un âne. Mais ce patrimoine de Saint-Pierre, en fait, c'est le sien. Et il le gère, cet homme qu'on va accuser d'avoir ruiné l'Église. Parce qu'on a quand même osé dire ça, l'a prodigieusement enrichi.
Est-ce que c'était le premier pape à avoir pris comme ça contact avec les princes, avoir eu ce souci d'être le pape universel?
Incontestablement, oui. Il a eu ce sens. Il a eu ce sens de l'avenir, parce que jusque-là, il faut voir ce qu'est l'Europe du 5e, 6e siècle. Ce sont des souverains jugés illégitimes. Il y a une sorte de fiction juridique que les gens vont s'obstiner à croire pendant presque 200 ans, que l'invasion barbare, c'est une parenthèse, un jour ça ira mieux, et puis l'Empire reviendra, et puis tout rentrera dans l'ordre. Par conséquent, on ne tient pas compte des Visigoths, on ne tient pas compte des Francs, bon, ça passera comme les sauterelles. Et Grégoire, lui, va avoir ce double génie de dire, d'une part, ça ne passera pas, ils sont là, ils sont bien là, donc il va falloir faire avec. Et puis d'autre part, l'Empire, on en a beaucoup rêvé, on l'a beaucoup pleuré, on l'a beaucoup regretté, mais l'Empire tel qu'il est aujourd'hui, c'est une catastrophe. Vous allez me dire, en quoi c'est une catastrophe? Je vais vous donner un exemple très simple. Je vous ai dit que les Lombards n'étaient pas des gens aimables. Mais à la même époque, l'Empire byzantin, dans les régions qui n'ont pas encore été conquises par les Lombards, va faire de nouvelles taxes en disant, ces armées que Grégoire n'a jamais vues, ces armées destinées à combattre les Lombards, eh bien, il faut de quoi les payer. On va donc pressurer les malheureux Italiens en leur disant, voilà, pour payer les armées qui vont venir vous protéger, il faut que vous nous donniez des sommes astronomiques. Il faut imaginer que ce sont des gens qui sont totalement ruinés depuis des années, ils n'ont plus rien. On leur a pris leur bétail, on leur a pris leurs meubles, on leur a pris leurs champs. Ouais. Et le fisc continue. Et qu'est-ce que vous voulez prendre à ces gens? Ils n'ont plus rien. Ah! Je vous disais que l'empereur Maurice, il aurait tondu à un œuf. Il leur reste quelque chose à ces pauvres gens. Il leur reste leurs enfants. On va saisir leurs enfants et on va les vendre comme esclaves. C'est ça que Grégoire voit avec horreur. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cet empire chrétien qui est capable, quand les contribuables ont des dettes, de saisir leurs enfants et de les vendre comme esclaves? Et c'est à tel point que dans certaines régions, les gens qui ne peuvent plus payer les impôts s'en vont nuitamment avec leur famille pour échapper au fisc, pour que leurs enfants ne soient pas vendus en esclavage. Et ils passent où? Chez les Lombards. Les Lombards sont plus humains que l'Empire. Et ça, Grégoire l'a admirablement compris. Il dit, quand un système est mauvais, même si c'est un système que l'on a aimé, quand ce système a complètement dégénéré, il faut s'en débarrasser. Et pape œcuménique, oui, il l'est à bien des sens, puisqu'il y a aussi ce souci des nations païennes, ce souci des nations dont personne ne s'est occupé jusque-là. On aurait très bien pu laisser la Gaule à sa simonie, l'Angleterre à son paganisme, l'Espagne à son arianisme. Non, Grégoire va vraiment se sentir responsable de l'ensemble de ses peuples. Ça ne fonctionnera pas au niveau de l'Empire d'Orient, parce qu'il y avoir ce problème éternel du césaropapisme et du refus de Constantinople de laisser Rome contrôler et s'ingérer dans les affaires de l'Église d'Orient. Mais au niveau de l'Europe, oui, c'est un travail prodigieux d'une modernité extraordinaire.
On dit que Saint Grégoire a déplacé le pater dans la messe et qu'il écoutait à l'été les répétitions des scolas. Peut-être que vous pouvez me dire quelques mots sur...
Oui, je vais vous en dire quelques mots. J'avoue, je ne suis pas une très grande spécialiste du grégorien. Il y a des gens infiniment plus compétents que moi. Mais ça fait partie des réformes que Grégoire a mises en place. Quand il arrive, il trouve le chant liturgique bien ancré dans l'Église, mais il y a déjà le rite ambrosien, le chant ambrosien, qui existe. Moi, j'avoue, je n'ai jamais entendu le chant ambrosien. Je vais à Milan précisément pour essayer de l'écouter dimanche. Mais c'est un chant difficile. Grégoire est très conscient, c'est un chant réservé à une élite. Et Grégoire, il voudrait que le peuple puisse chanter, que tout le monde chante. Et d'autre part, il y a un autre problème dans le chant liturgique de l'époque. C'est un problème récurrent que l'on reverra plus tard avec les polyphonies, quand la messe finira par se transformer en opéra quasiment. Et Pélage II avait une scola magnifique. Il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Et malheureusement, le chef de la scola était un certain Laurentius, qu'il avait fait diacre sans qu'il ait reçu les ordres sacrés, je vous rassure. Alors, Laurentius avait une voix sublime, absolument magnifique. Mais Laurentius était un homme perdu de mœurs. Ce qui n'était pas très bon pour les jeunes chanteurs de la scola. Et la première chose que va dire Grégoire, c'est « Laurentius a peut-être une belle voix, il a même une très belle voix, mais je n'ai rien à faire d'une scola de ce genre-là. » Il va chasser Laurentius, ce qui va d'ailleurs faire un scandale épouvantable. Et une des raisons pour lesquelles il va vouloir cette réforme grégorienne, c'est pour éviter ce chant mondain, qui est un chant qui peut en effet aboutir à des scandales comme celui-là, et puis pour que tout le monde puisse chanter. Pour que ce ne soit... Il faut imaginer à quoi ressemblait le chant ambrosien. Il fallait... Vous aviez un maître de chœur qui connaissait les chants ambrosiens, qui n'était pas noté. Puis il allait dans une autre communauté, il formait les gens aux chants ambrosiens. Puis la communauté en question allait en former d'autres, et ainsi de suite. C'était épouvantablement long. Le chant grégorien, évidemment, va réduire ce genre de problème. Vous aviez une question, je crois.
Elles sont rapportées à celle qui vient d'être posée.
Plus rien ? Oui ?
Comment ça, Grégoire a eu tant d'enseignements pour écrire la vie de Saint-Benoît ? Par les gens dont vous nous avez parlé ?
Par les gens dont on a parlé. Alors oui, c'est une question que je n'ai pas abordée, j'avais peur d'être trop longue. Mais à partir de la réforme protestante, on va assister à quelque chose de tout à fait surprenant, puisque la vie de Saint-Benoît, on la trouve dans les dialogues. Les dialogues sont un texte délicieux à plus d'un point de vue, écrit dans une langue. C'est très facile à lire, les dialogues de Saint-Benoît. Vous n'avez pas besoin d'être un grand latiniste pour lire ça à livre ouvert. Et il y a entre autres cette vie de Saint-Benoît, et c'est le seul texte historique que nous ayons sur Saint-Benoît. Mais malheureusement, à partir de la réforme, Luther et d'autres ont dit « Oui, mais les dialogues, c'est pas de Saint-Benoît, c'est pas de Saint-Grégoire. C'est un texte apocryphe, ça regorge de miracles, de choses bizarres. » Et en fait, l'auteur a complètement, qui n'était pas Saint-Grégoire, l'auteur a complètement inventé la vie de Benoît, ce qui était extrêmement habile, puisqu'en prétendant que Benoît n'avait jamais existé, vous discréditiez complètement la règle bénédictine et l'ensemble des ordres monastiques qui en découlaient. Or, il n'y a aucun doute sur la validité du texte. Il suffit de regarder, on sait bien que c'est de Grégoire. On a deux sortes de textes chez Grégoire. On a des textes dans un latin, je vous disais, qui n'est plus un bon latin, mais qui est un latin extrêmement maniéré. Si certains d'entre vous ont lu Venance Fortuna, par exemple, non pas les hymnes sacrés de Venance Fortuna, mais les Carmina, les poèmes. C'est un latin épouvantablement compliqué, épouvantablement maniéré. Grégoire est capable d'écrire comme ça. Puis il y a l'autre Grégoire, celui des dialogues et celui d'autres textes de ce genre, qui est un Grégoire très simple, probablement la façon dont il prêchait, parce que Grégoire prêchait le dimanche. On a un certain nombre de ses sermons. Et il n'y a pas de doute, Grégoire est bien l'auteur des dialogues et de la vie de Saint-Benoît. Mais c'est effectivement la seule source que nous possédions. Sans Saint-Grégoire, nous ne saurions strictement rien de Saint-Benoît. Et ça, c'est également un héritage dont nous lui sommes incroyablement redevables.